Magnifique es-tu, Seigneur. Combien tu es magnifique. Combien tu es merveilleux. Combien tu es grand. Merci, Seigneur, de ce matin pouvoir nous approcher de toi. De simplement ce matin pouvoir venir dans ta présence. De simplement ce matin, Seigneur, nous réjouir en toi. Et de simplement ce matin, Seigneur, recevoir ta parole. Cette parole qui change nos vies, qui la transforme. Seigneur, que ce matin encore, ta parole viennent transformer nos vies, viennent faire grandir notre compréhension. Merci Père, merci parce que tu es là par ton esprit au milieu de nous. Amen. Qu'est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on est bien quand on peut vivre ces moments ensemble dans sa présence? Et pourtant, ce qu'on est en train de vivre, c'est un tout petit à-compte de ce que le Seigneur a préparé pour nous. On va le voir ce matin, on va l'expérimenter, on va le vivre. Mais pour en arriver là, je vais un petit peu revenir en arrière. Et commencer par parler d'exil. Alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on aimerait ressentir quelque part, mais c'est aussi quelque chose qui est là, c'est une réalité qu'on vit. Et cette réalité, ça me travaille depuis un bon bout de temps déjà. Et entre-temps, il y a eu bien des choses qui se sont vécues dans l'Église. Il y a eu l'étude biblique que Florence nous a faite, elle nous a parlé de l'Alliance, elle nous a parlé de beaucoup de choses hein, ce soir-là. C'était intense, c'était super intéressant. Mais moi, ça m'a parlé par rapport à ce thème que j'avais sur le cœur. Cette alliance que l'être humain a transgressée, il l'a transgressée tellement souvent. Alors même que Dieu suscitait des prophètes, suscitait des personnes pour mettre en garde. Puis pour dire, mais votre attitude, elle va vous mener au désastre. Et cette transgression de l'Alliance, elle a eu des conséquences. L'exil pour le peuple d'Israël, on le voit, le nombre de fois, combien de fois dans la Bible, il y a eu ces conséquences qui étaient là. L'exil, la perte de la présence de Dieu, éloigné de la présence de Dieu. Il n'y a pas que cet exil physique d'un endroit à l'autre, mais il y a cette séparation de la présence de Dieu. Et c'est aussi en étant en exil que le peuple d'Israël a réalisé les conséquences de son abandon de Dieu. C'est là qu'il a réalisé que, ben oui, il avait fait fausse route. Et plusieurs prophètes auront de cesse que de rappeler le peuple à la repentance, à revenir à l'Éternel. Par exemple, Jérémie, dans Jérémie 4, dit « Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. » Et c'est quand il est dans la détresse la plus profonde, qu'on remarque que le peuple d'Israël devient sensible à la parole de Dieu. Il l'entend. C'est cette parole de Dieu qui le rappelle à lui. Et après ça, enfin, il crie à l'Éternel. Et il y a un beau résumé de ce cheminement du peuple d'Israël dans les psaumes, hein, notamment les psaumes 106 et 107, vous pourrez les lire, avec cette phrase qui revient tout le temps. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés. Il les a délivrés. Aujourd'hui, nous sommes en exil. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été dit lors de cette soirée d'études. Aujourd'hui, nous sommes en exil. Un exil qui a commencé il y a bien longtemps, lorsqu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Mais nous sommes dans un endroit, dans un moment particulier de cet exil. Parce que Jésus s'est fait homme. Il a pris notre condition de pour venir donner sa vie en sacrifice, pour se sacrifier, ce sacrifice parfait qui nous ouvre l'accès au Père, qui nous ouvre l'accès à la maison, auprès de notre Créateur. Oui, nous sommes en route vers la maison. Nous sommes en route vers la maison. Et dimanche passé, encore Florence d'ailleurs, lors de son message, elle nous a fait prendre conscience de l'importance d'être, de se savoir pardonner. La guérison, c'est avant tout être pardonné pour retrouver cette relation avec notre Créateur. Cette relation que le Seigneur désire avoir avec nous, qu'il a prévue. Et on vit dans cette réalité du déjà accompli, mais on n'est pas encore là où on doit être. On est sauvé, le sacrifice de Jésus, son sang qui a coulé, nous ouvre l'accès vers cette habitation éternelle. Cette habitation éternelle que Christ est allé préparer pour nous. Mais aujourd'hui, on est encore sur cette terre, on est encore en exil. Cet endroit d'exil, on y subit encore les conséquences du péché. Mais par anticipation, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà sans corps. Et j'en arrive à la même conclusion qu'avant. Oui, nous sommes en route vers la maison. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui aiment passer leurs vacances sous tente? Ah, il y en a. Ouais, j'allais dire, il n'y a que des jeunes, mais même pas forcément. Waouh! C'est vrai que quand le matin, il y a le doux rayon du soleil qui vient sur la tente, ça nous réveille gentiment. On peut se mettre devant la tente, il y a la douceur du matin, les oiseaux qui chantent, vous avez le café qui chauffe sur votre petit camping gaz qui est prêt à se renverser. Mais voilà, c'est des moments géniaux, n'est-ce pas? Nous, on a fait quelques jours de vacances sous tente en famille, bon, il y a bien longtemps hein, déjà. J'aimerais vous dire, je ne sais pas comment nos enfants l'ont vécu, mais moi j'ai presque envie de vous dire, bof. C'est vrai qu'on a réalisé que c'est quand même mieux d'être un petit peu équipé. Quand on allait faire la vaisselle, on voyait les gens arriver avec leurs bassines, leurs produits de vaisselle, ils avaient le linge sur l'épaule, ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour faire la vaisselle. Et puis moi, ben, j'étais avec mes 5 gobelets, 3 fourchettes, parce que j'en avais déjà perdu 2 en cours de route, donc à essayer d'aller laver ma vaisselle au lavoir, puis finalement ben, j'avais rien, j'avais que mes mains et puis de l'eau froide, puis voilà. Donc on n'était pas vraiment équipés. Puis il y avait les voisins, mais des voisins très très proches, vous savez, hein, juste à côté, dans une tente. Puis ces voisins, ils étaient plutôt du genre à dormir la journée, et faire la fête la nuit, hein, on va dire ça comme ça. Et puis il y a aussi eu à un moment donné un orage, vraiment un violent orage. Il y a le sol qui tremblait quand la foudre tombait, là, quand il tonnait. Et puis on était dans notre tente, puis on se disait, mais on a planté notre tente sous un de ces grands pins là. On nous a toujours dit que quand il y a un orage, il ne faut pas se réfugier sous un arbre, hein. Enfin bref, voilà, toutes les expériences qu'on a faites qui font qu'on n'a pas fait du camping sous tente très souvent. Mais j'en connais qui aiment tellement ça. Il y en a, c'est vrai. Ils aiment l'aventure sous tente. Je ne sais pas si Josquin est en ligne ce matin, mais Josquin, lui, il a... Salut Josquin. Il a raffolé de ces 3 jours qu'il a vécu... à vivre au milieu de rien du tout, sous la pluie, avec toute une équipe d'hommes, et ils ont vécu des moments géniaux. Mais vous savez quoi? Si vous allez voir chez lui, sa tante, il ne l'a pas planté dans son jardin pour continuer de dormir dedans. Non, non, il est quand même content de dormir dans son lit, je crois. Puis il y a d'autres personnes pour qui la tente, c'est leur seul abri, leur seule protection. Une protection qu'ils ont parce qu'ils ont dû fuir à cause de la guerre, fuir à cause d'une famine, fuir à cause d'une autre catastrophe naturelle. Ces gens-là ont dû s'exiler, quitter leur lieu de vie pour survivre ailleurs. Et cette tente, cette toile, c'est leur seul abri. Je disais tout à l'heure qu'on est en exil. Depuis la chute, on est en exil. Est-ce qu'on en est vraiment conscient? Est-ce qu'on le réalise vraiment? Personnellement, j'ai dû faire un effort pour vraiment me rendre compte que oui, je suis en exil. Notre confort, nos richesses, notre routine quotidienne, c'est des choses qui, quelque part, nous anesthésient. On ne le réalise pas forcément, mais on est un petit peu comme quand on va au zoo, vous savez, vous allez à Bâle, vous avez des super parcs pour les animaux. Hein. Les éléphants sont dans leur parc, ils ont l'impression d'être en liberté, ils ont l'impression ils sont bien, voilà, ils profitent de l'endroit où ils sont, mais ils n'ont jamais réalisé, ils n'ont jamais vu ce qu'est la vraie liberté. Et ils sont enfermés dans ce zoo. Et je crois, parfois, on est un petit peu comme eux, on n'a rien vu d'autre, on vit sur cette terre, on vit dans notre milieu, et on est bien là où on est. Mais il faut qu'on réalise qu'on a été créé pour bien plus que ça. Bien plus que l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Et ce matin, j'aimerais vous proposer qu'on s'arrête quelques instants sur un texte que Paul a écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, les versets 1 à 9. Je dis dans la version du second 21, donc ça peut être un petit peu différent pour certains d'entre vous. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu. Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est un texte que j'ai lu, relu et relu hein, pour bien essayer de cerner tout ce qu'il y a là-dedans. Et je n'ai pas tout compris encore, je crois. Tout d'abord, au verset 1. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Paul parle ici d'une certitude. Nous savons. Mais parfois, nous nous voilons un peu la face hein, quand même. On est bien ici. On est bien ici, on est installé, on a des amis, on est bien. Pourtant, nous savons que notre habitation terrestre, notre corps, est bien vulnérable. Nous savons que notre vie peut tenir à un fil. On n'est pas forcément d'accord de l'entendre. Mais on le sait. Et face à cette réalité-là, il y a deux façons d'agir. Même de réagir plutôt, hein. Soit il y a la remise en question de nos choix, de nos priorités, qui vont nous amener à cette profonde repentance pour regarder en direction de notre Sauveur, de notre Seigneur, en direction de la demeure qu'il a préparée pour nous. Ou la deuxième façon, c'est la fuite en avant. La fuite en avant, c'est ce que le peuple d'Israël a fait tellement souvent. Et Ésaïe, notamment, il dénonce clairement cette manière de faire. Dans Ésaïe 22, les versets 13 et 14, Ésaïe dit « Et voici de la gaieté et de la joie. On abat des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons, dit-on. L'Éternel, le maître de l'univers, me l'a révélé. Non, cette faute ne vous sera pas pardonnée jusqu'à votre mort. C'est le Seigneur, l'Éternel, le maître de l'univers, qui le dit. » Cette parole, elle est sévère, mais elle est tellement juste, parce que notre Dieu est juste. Alors nous savons, en ce qui concerne notre corps, nous savons, en tant que chrétiens, que dans le ciel, il y a une habitation qui est l'œuvre de Dieu. C'est une certitude. Une habitation éternelle, nous le savons. Mais savons-nous que nous avons une habitation éternelle ? Ce n'est pas simplement qu'il y a quelque chose, mais j'ai quelque chose. Il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose pour toi. C'est une certitude. Et ça doit être une certitude dans nos vies. Parce que si ce n'est pas une certitude pour nous, nous faisons Jésus menteur. C'est peut-être violent ce que je dis là. Mais dans Jean 14, Jésus disait à ses disciples, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il n'y a pas de « peut-être ». Je vais vous préparer une place. Je vais te préparer une place. C'est les paroles de Jésus. Est-ce qu'on ose les remettre en doute? Parce que si on met les paroles de Jésus en doute, on en revient à l'épisode dans le jardin d'Éden avec le serpent. Dieu a-t-il vraiment dit? Avec les conséquences qu'il y a eu, l'exil loin de Dieu. Pourtant, cette notion d'éternité, elle est gravée dans le cœur de l'homme. Bien au-delà de nos églises, bien au-delà de tous les croyants, cette notion d'éternité, elle est gravée. Quand on voit un petit peu tout ce qui est dépensé pour essayer de trouver comment rendre l'être humain éternel, comment le rendre immortel, vous imaginez la catastrophe ? Des fois, j'essaie de réfléchir, je me dis, mais vous vous rendez compte? Si on devait continuer de vivre toute notre vie ici, alors qu'on s'use, on s'use, on s'use et on s'use encore. Mais cette notion d'éternité, elle est gravée en nous. Au verset 2, il est dit, « Nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. » Avec l'ardent désir. Parfois, j'entends des personnes qui disent, « Mais Seigneur, reprends-moi. Parce que cette vie, franchement, sur cette terre, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est n'importe quoi. » Et ce n'est pas forcément des personnes qui ont vécu toute leur vie, qui sont arrivés au bout de ce qu'ils avaient à vivre sur cette terre. Non, ça peut être des jeunes. Seigneur, reprends-moi parce que moi, je n'ai pas envie de vivre sur cette terre. Moi, ça me pose problème. C'est vrai, ce monde part à la dérive, on le sait tous, on le voit. On sait pas de quoi sera fait demain. On voit des guerres, on voit des peuples qui souffrent, on voit la famine, les dévastations de toutes sortes. Et pourtant, dans Matthieu 24, Jésus dit aussi, par rapport à tout ça, ne vous laissez pas effrayer. Beaucoup trébucheront, se laisseront tromper. L'amour d'un grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, si tu es là, c'est que ta place est ici, ta place est dans ce monde. Et c'est vrai, Paul parle de ce désir, le désir de revêtir ton domicile céleste. Il ne parle pas d'une attente passive, de simplement reprends-moi. Il y a un désir, il y a quelque chose d'autre là derrière. Et tu peux te revêtir de ton domicile céleste déjà aujourd'hui en vivant ici à Latcho. Il faut qu'on puisse se revêtir aujourd'hui de notre domicile céleste parce qu'il s'agit de notre identité en Christ. Je vais essayer d'un petit peu imaginer ça. Pour ça, j'aurai besoin de quelques personnes. Il y a Romain qui s'est déjà porté volontaire. Mais j'aurai besoin de deux autres personnes. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous n'avez rien à dire, deux autres personnes. C'est juste d'être là, debout. Qui veut venir soutenir Romain? Viens, Romain. Viens, Norma. J'ai besoin de toi aussi. Normal, puis qui c'est qui va encore venir? Pierre, viens, Pierre. Romain, tu peux t'asseoir sur cette chaise. Normal, je te donne un côté du drap et l'autre côté à Pierre. Et puis en fait, vous allez cacher Romain. Moi, je vais aller chercher mes feuilles parce que sinon, je vais me perdre. Voilà. Donc Romain ne nous voit pas. J'ai pris exprès Romain parce que vous ne le connaissez pas forcément beaucoup. Hein? Romain ne voit pas les personnes qui sont devant lui. Il est séparé du reste de la salle. Mais vous pouvez peut-être admettre qu'on l'a amené ici, un petit peu caché dans ce drap. Voilà, il est arrivé là, il ne sait pas trop où il est. Est-ce qu'il va savoir qui se trouve dans cette salle ? Bonne question. Si par exemple, je te demande à toi de lui dire quelque chose, dis-lui quelque chose, est-ce qu'il va savoir qui est là? Non, non, il faut lui dire quelque chose. Dis-lui bonjour au moins.
Bonjour.
Est-ce que tu as reconnu?
Oui.
C'est qui?
Mathilde.
Ah, Mathilde, tiens, bizarre. Il l'a reconnu. Mais si maintenant je te demande à toi de lui dire quelque chose... Dis-lui quelque chose. Ouais, toi. Je n'ose pas dire ton prénom parce que.
Tu vas bien derrière ta couverture?
Oui.
Est-ce que tu l'as reconnu?
Non.
Non. Alors je vais te dire, celui qui t'a parlé, il s'appelle Stéphane. Maintenant, si tu l'entends te redire quelque chose, tu vas savoir que c'est Stéphane. Hein? Tu as retenu ça. Et on pourrait faire cet exercice pendant des jours et des jours. Hein. En fait, au fur et à mesure que vous discutez avec lui, il va apprendre à vous connaître, il va apprendre à vous reconnaître, et puis il commencera à être à l'aise avec vous, et vous avec lui. Moi, j'appelle ça, cette personne qui est cachée là derrière, c'est cette personne qui gémit dans sa tente. Mais il y a cet ardent désir de revêtir notre domicile céleste. C'est cet ardent désir de finalement savoir où il est, de savoir dans quel environnement il est appelé à vivre, d'apprendre à vous connaître. Donc c'est d'avoir cette relation avec vous, de pouvoir vous reconnaître. Et à un moment donné, le drap va tomber, vous pouvez le lâcher, c'est bon, vous pouvez le laisser tomber. Il va être là, au milieu de tout le monde, comme avant, il va être là, et il vous reconnaît. Mais il est à l'aise, pourquoi? Parce qu'il voit vos visages. Il ne les a pas vus, vos visages, il ne les connaît pas. Mais il va vous reconnaître, parce qu'il connaît votre voix. Cet ardent désir de connaître notre domicile céleste, notre maison, celle qui nous attend, c'est ça. Vous pouvez retourner à votre place, merci. Je vais remettre la chaise un peu plus loin. Et c'est ce que je comprends au travers de ce que je vous montre là, c'est ce que je comprends quand Paul termine son verset en disant « Nous voulons nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » En fait, quand le rideau tombe, quand on est enlevé de notre tente, il n'y a pas de crainte, on sait où on est, parce qu'on connaît, on reconnaît les choses, parce qu'on a eu cette relation tout au long de notre vie avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Quand on va devoir quitter notre tente, notre corps, c'est pas je perds quelque chose, mais c'est je gagne quelque chose. Notre intimité avec notre Seigneur, la place qu'on laisse à l'action du Saint-Esprit en nous, notre motivation à le laisser agir, à le laisser nous travailler, à nous laisser nous emmener à sa suite, dans les missions qu'il nous confie, toutes ces choses-là nous revêtent de notre domicile céleste. Et dès qu'on quittera cette terre, on saura, on connaîtra l'endroit où on va. Parce que, oui, il est connu de nous déjà. Alors oui, revêtons-nous de notre domicile céleste déjà aujourd'hui. Apprenons à vivre cette proximité avec Dieu, avec notre Créateur, avec notre Sauveur. Au verset 5, Paul nous dit « Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. » Le Saint-Esprit qui est le gage donné par Dieu. Le gage, la compte, la garantie. L'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, aujourd'hui, il est merveilleux. Au milieu de l'Église, c'est merveilleux quand on voit comment Dieu agit par son Esprit. Mais c'est que la compte. C'est qu'un petit bout. Payer un acompte, c'est s'engager. Je ne sais pas si vous commandez un salon quelque part, on va vous demander un acompte. Cet acompte, on va vous le demander pour ne pas que vous vous défiliez entre le moment de la commande et puis la livraison. En gros, c'est un peu ça. Hein. Mais Paul dit autre chose là au niveau de l'acompte. Ici, c'est Dieu qui nous construit quelque chose, une demeure éternelle. Qu'est-ce qu'il nous demande comme acompte? Comme acompte pour la réservation? Il ne nous demande rien. Au contraire, c'est lui qui nous donne un acompte. C'est lui qui nous donne un acompte. La version Parole de vie dit ceci: celui qui nous a préparés pour cette vie-là, c'est Dieu. Il nous a donné l'Esprit Saint comme première part des biens que nous allons recevoir de lui. Ce Saint-Esprit, ce n'est pas juste un petit plus pour nous rappeler la demeure préparée par le Seigneur. Ce Saint-Esprit, cette petite part, elle est essentielle dans nos vies. Elle est essentielle dans ta vie aujourd'hui. Que ferions-nous, que serions-nous sans le Saint-Esprit qui agit dans nos vies? Où serait l'Église sans le Saint-Esprit? Il n'y aurait pas d'Église. Jean 16, les versets 5 à 14. Jean 16, 5 à 14. Jésus parle du Saint-Esprit. Et il dit, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'action du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une petite flamme au-dessus de chaque chrétien. Ce n'est pas juste une image, ce n'est pas juste quelque chose de lointain, qu'on peut pas toucher. La présence du Saint-Esprit, elle est réelle, elle est là. Combien de fois on l'a déjà vécu, on l'a déjà ressenti? Combien de fois on a vu le Saint-Esprit agir dans nos vies? Sans son action, au milieu de nous, il n'y aurait aucune espérance. Aucune espérance pour nous. C'est lui qui nous convainc. On l'a lu, il nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous révèle la gloire de Dieu. Waouh ! Mais tout ça, c'est qu'un acompte de ce qui nous attend. Mais c'est un acompte qui nous fait entrer dans la réalité du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui nous attend à la maison? Aujourd'hui, on est comme Romain derrière sa toile. Le Saint-Esprit nous révèle certaines choses. Des choses qu'on peut comprendre partiellement, avec notre compréhension humaine. Mais un jour, le rideau tombera, un jour, on comprendra, un jour, on le verra. J'aimerais juste lire en conclusion de ce message, quelques versets dans Apocalypse. Dans Apocalypse 21, je prendrai plusieurs bribes de ce chapitre. Juste pour qu'on réalise un petit peu avec nos limites, les limites de nos compréhensions, ce que le Seigneur a préparé pour nous. Que ce soit pour aujourd'hui, pour 10 ans, plus tard, c'est égal. Mais il l'a préparé pour nous. Il l'a préparé d'avance. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Amen.